إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence donc aujourd'hui le cours maintenant 95 dans le livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim. Et on a dans les cours passés expliqué les différentes conditions qui ont été établies par Omar ibn Khattab ainsi que les Sahaba vis-à-vis des gens du livre, et comment l'islam leur a imposé de suivre certaines règles et certaines conditions lorsqu'ils vivent dans les pays musulmans, et en même temps aussi comment ils ont été interdits d'imiter les musulmans, c'est-à-dire à l'époque des sahaba, lorsque l'islam a commencé à se propager dans les différents pays, les conditions qui ont été établies par rapport aux chrétiens et aux juifs qui choisissaient de rester vivre dans les pays musulmans, c'était qu'ils devaient respecter certaines règles, certaines conditions. Et parmi les conditions qu'on a mentionnées, c'est qu'ils ne devaient pas s'habiller comme les musulmans, ne devaient pas ressembler aux musulmans. Donc, on a mentionné ça, on a clarifié certains exemples. On va continuer dans ça. Le cheikh dit « وَلَمْ أَكْتُبْ سَائِرَ مَا كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِهِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مَا كَانُوا يَأْمُرُونَ بِهِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِذِ الْغَرَضُ هُنَا التَّمْيِيزِ وَكَذَلِكَ فِعْلُ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ هَارُونَ الْمُتَوَكِّلِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي خِلَافَتِهِ وَاسْتَشَارَتُهُ فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ وَغَيْرِهِ وَعُهُودُهُ فِي ذَلِكَ وجوابات أحمد ابن حنبل له معروفة، ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك، ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. donc le cheikh il explique que Ibn Taymiyyah a dit: je n'ai pas tout écrit également ce qui était ordonné aux gens du livre, parce que le but ici c'est en particulier la distinction, c'est-à-dire le but du livre c'est d'établir les preuves que l'islam nous ordonne qu'il y ait une distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Donc les autres choses qui ont été mentionnées comme ordre pour les gens du livre, il ne les a pas toutes mentionnées, il ne les a pas toutes écrites. Il dit de même que ce que Ja'far ibn Muhammad ibn Harun al-Mutawakkil, c'était le khalifa de l'époque, à l'époque de l'imam Ahmad, c'est al-Mutawakkil, c'est qui? C'est celui qui a fait tomber la fitna, c'est-à-dire c'est lui qui a arrêté la fitna des Mu'tazila, hein, à l'époque de l'imam Ahmad, parce que vous connaissez un peu le contexte de l'histoire de l'imam Ahmad ibn Hanbal quand il y a eu la fitna de Khalq al-Qur'an. Le khalif, il y a trois khulafa de l'époque de l'imam Ahmad qui ont été influencés par les Mu'tazila et qui imposaient à tout le monde, tous les imams, tous les ulama, de dire que le Coran est créé. Et tous ceux qui refusaient, ils étaient emprisonnés, ils étaient torturés, même parfois tués. Et l'imam Ahmad, lui, il a été parmi les ulama qui ont défendu la sunna et continué d'affirmer que le Coran c'est la parole d'Allah et que la parole d'Allah elle n'est pas créée. Et donc il y a eu en premier le premier khalifa qui avait cette fitna, qui a établi cette fitna, c'était Al-Ma'mun, Khalifatul Ma'mun, et le deuxième c'était Al-Mu'tasim, et le troisième c'était Al-Wafiq. Donc ces trois khulafas ont été des khulafas qui ont suivi la croyance des Mu'tazila, la secte des Mu'tazila. Puis celui qui les a succédés, celui qui les a suivis, c'était Al-Mutawakkil, et lui il a arrêté la fitna des Mu'tazila, il les a éloignés du pouvoir et il a ramené la sunna. Il a ramené la sunna, il a ramené l'imam Ahmad. Hein? Et il a rétabli les choses comme elles étaient avant. Donc, parmi les choses qu'il a mentionnées à son époque, il a demandé à l'imam Ahmad certains conseils à propos des règles à établir vis-à-vis des gens du livre et les conditions qu'ils doivent respecter. Et il a établi certaines de ces conditions-là, il a mentionné certaines de ces conditions-là, et parmi ces conditions-là, il y a le fait qu'ils devaient cacher les mauvaises choses de leur religion et ne pas les exposer ou de ne pas les faire publiquement. De même que l'alcool, hein, ils ne doivent pas le boire ou le vendre en public dans les pays musulmans, ou bien également la cloche, le feu ou leur fête, ils ne devraient pas les exposer. Et ainsi que les rites de leur religion, les symboles de leur religion, de même que la lecture de leurs livres, ils ne devaient pas faire ça à haute voix ou de façon publique. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit وَقَوْلُهُ وَلَمْ أَكْتُبْ سَائِرًا مَا كَانُوا يَأْمُرُونَ بِهِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ يَقُولُ الشَّيْخ لَمْ أَكْتُبْ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا رُوِيَ فِي تَعَامُلِ وُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَسْبَ الشُّرُوطِ لأن المقصود ليس الاستقصاء ولأن الإلمام بذلك يحتاج إلى تطويل الكتاب. Donc ici en gros qu'est-ce qu'il explique, c'est que Ibn Taymiyyah a dit j'ai pas tout écrit ce que les dirigeants ont établi par rapport aux règles vis-à-vis des gens du livre qui vivent dans les pays musulmans comme condition. Et pourquoi? Parce que le but c'est pas d'énumérer tout. Parce que cela, ça prend beaucoup de temps et d'espace. Donc, il s'est limité uniquement à ce qui était essentiel pour faire comprendre ce principe-là. Puis après, il dit وَكَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ فِعْلُ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ هَارُونَ الْمُتَوَكِّلِ المتوكل هو أحد الخلفاء العباسيين وهو الذي نصر أهل السنة في خلافته بعد أن عذبهم وأهانهم المأمون ومن بعده المعتصم ثم الواثق بإملاء من المعتزلة وفي مقدمة من عذبوا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقد نصروا أهل البدعة وأرادوا أن يلزموا المسلمين بالقول بخلق القرآن إلى أن جاء عهد المتوكل رحمه الله فرفع المحنة عن أهل السنة وأعز الإمام أحمد وجعل يستشيره في كثير من الأمور. Donc tout ce que le cheikh il a dit jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai expliqué, hein, avant de commencer à traduire la parole à propos de la fitna de Khalq al-Qur'an, à propos de Al-Ma'moun, Al-Wathiq et Al-Mu'tasim et Al-Wathiq, comment ils ont donné des difficultés à l'imam Ahmad et à tous les ulama d'Ahl al-Sunnah, puis Al-Mutawakkil par la suite qui est revenu et qui a défendu la Sunnah et qui a ramené l'imam Ahmad, hein, comme étant le défenseur de la Sunnah, puis le fait que Al-Mutawakkil se référait souvent à l'imam Ahmad pour lui demander des conseils. Il dit وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِشَارَتُهُ فِي مَسْأَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالتَّعَامُلِ مَعَهُمْ وَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكْتُبُ أَجْوِبَةً لِلْمُتَوَكِّلِ فِيمَا يَسْأَلُهُ مِنْ ذَلِكَ. Donc le fait que Al-Mutawakkil parfois il posait des questions c'est-à-dire le khalife a posé des questions à l'imam Ahmad pour savoir comment gérer comment agir avec les gens du livre, comment se comporter envers eux, et c'était quoi les règles. Alors l'imam Ahmad, il lui écrivait des réponses pour lui clarifier ces points-là. Le cheikh, il dit ensuite, « Al-gharadu min ash-shurut » أولا ومنها ما يعود بإخفاء منكرات دينهم يعني أن المقصود من الشروط على أهل الذمة هو إخفاء منكرات دينهم مثل إظهار الناقوس والبوق وإظهار أعيادهم الكفرية والبدعية فالأصل عدم إظهار دين الكفر وشعائره في بلاد المسلمين وإن كانوا أهل الذمة ومن ذلك منعهم من إظهار الخمر أي شرب الخمر وبيعه وصناعته وإن كانوا يستحلون ذلك فلا يمنعون منه خفية بينهم ولكن لا يظهرونه في بلاد المسلمين لأنه منكر وكذلك الناقوس وهو الذي يضربونه أو يضربون به عند حضور وقت عبادتهم فهم يمنعون من أن يعلو صوته بحيث يسمعه المسلمون وإنما يكون بصوت منخفض. Donc le cheikh il explique que parmi l'explication des buts ou des objectifs de ces conditions là, parmi les objectifs des conditions qui ont été établies sur les gens du livre, il y a le fait de vouloir cacher ou éliminer ou ne pas exposer les mauvaises choses qu'ils font dans leur religion. Et parmi les exemples de ça, le fait de la cloche, par exemple, ou bien la corne qu'ils soufflent, les juifs, ils ont un truc qu'ils soufflent. Ça, c'est des choses qu'ils ne devaient pas exposer ouvertement, de même que leur fête de kufr et d'innovation. Hein, ils ne devaient pas les fêter publiquement ou faire ça dans les pays musulmans, de façon publique. De même que à la base, ils ne doivent pas montrer la religion de kufr et de mécréance dans les pays musulmans. Même si ce sont des gens de dhimma, c'est-à-dire qui sont sous la protection des musulmans, ils ne doivent pas le faire ouvertement, leur kufr et leur shirk. Et la même chose pour l'alcool, par exemple, qu'eux, ils le rendent licite, mais ça ne veut pas dire qu'ils le rendent licite, qu'ils ont le droit de le boire publiquement, ou de le vendre, ou de le fabriquer publiquement. Ils doivent le faire en cachette entre eux et ne pas l'exposer devant les musulmans, dans les pays musulmans, parce que ça c'est quelque chose qui est mauvais. Et de même que la cloche, ils ne doivent pas la faire sonner très fort, ils doivent le faire seulement entre eux avec un son très faible. Et il dit وَمِمَّا يَجِبُ مَنْعُهُ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَعْيَادُ الْكُفَّارِ كَالنَّيْرُوزُ وَالْمَهْرَجَانِ وَكُلُّ مَا يَحْتَفِلُونَ بِهِ دَوْرِيًّا سَوَاءَ عَلَى مَدَارِ الْأَيَّامِ أَوِ الْأَسَابِيعِ أَوِ الشُّهُورِ أَوِ السِّنِينَ لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَ مَنَعَهَا وأمرنا أن نقتصر على أعياد الإسلام وقال قد أبدلكم الله يومين خيرا منها الفطر والأضحى فليس للمسلمين أعياد غير عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى فجميع الأعياد سواء كانت تعبدية يفعلونها من باب العبادة أو كانوا يفعلونها من قبيل إظهار قوتهم وسرورهم ولهوهم ولعبهم لا يجوز أن نتشبه بهم فيها ومع الأسف صار المسلمون الآن يقلدونهم في إقامة هذه الأعياد. Donc le cheikh il dit également, ils ont dans les choses, parmi les choses qu'on doit leur interdire de faire dans les pays musulmans, c'est de célébrer leurs fêtes de kufr, comme le Noël ou les autres festivals et les autres fêtes qu'ils font, les carnavals, les fêtes, ou toutes les autres choses qu'ils font annuellement, ou qu'ils font hebdomadairement, ou qu'ils font quotidiennement, des choses qu'ils font de célébration de ce genre, ou à chaque mois, ça c'est des choses qu'on doit interdire à ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce genre de fêtes et ce genre de célébration lorsqu'il est arrivé à Médine. Hein, il a trouvé que les gens de Médine faisaient certaines adorations, ou certaines fêtes plutôt, certaines célébrations et il leur a interdit ces célébrations-là et il leur a dit Allah vous a changé ces deux fêtes ou vous a changé ces fêtes-là pour deux fêtes qui sont meilleures que, celles, que les autres fêtes que vous faisiez, c'est Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Donc ça c'est les deux fêtes. La première c'est après le Ramadan et l'autre c'est après le Hajj. Les deux fêtes, la première c'est après le Ramadan, l'autre après le Hajj. Et donc les musulmans n'ont pas d'autre que ces deux fêtes-là. Et donc toutes les autres fêtes, peu importe qu'elles soient des fêtes qui sont basées sur l'adoration ou que ce soit des fêtes basées sur autre chose pour montrer leur force ou montrer leur joie ou pour se divertir ou pour s'amuser ou des choses de ce genre, il n'est pas permis pour nous de leur ressembler dans ces fêtes-là. Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est le contraire. C'est les musulmans qui imitent les kuffars dans leurs fêtes. Allah musta'an. Ensuite, le cheikh dit « وَمِنْهَا ثَانِيًا وَمِنْهَا مَا يَعُودُ بِإِخْفَاءِ شِعَارِ دِينِهِمْ لأن الشعار معناه العلامة العلامة كرفع أصواتهم بقراءة كتبهم مثل التوراة والإنجيل فلا يقرؤونها علانية وإنما بين فيما بينهم. Donc également un autre but parmi les buts de ces conditions là c'est de cacher les symboles et les signes de leur religion comme par exemple le fait de lire leurs livres parmi les musulmans comme la Torah et l'Injil. Ils ne doivent pas la lire publiquement, mais plutôt entre eux seulement. Également, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « فَاتَّفَقَ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءَ بَعْدَهُ وَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَلَى مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى مَنْعِهِمْ مِنْ أَنْ يُظْهِرُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ شَيْئًا مِمَّا يَخْتَصُّونَ بِهِ مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها هم الله المستعان. Donc le cheikh il mentionne ici Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah des choses intéressantes. Il dit que Omar et les musulmans avec lui et tous les ulama qui sont venus après ont tous été d'accord et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le succès parmi les dirigeants également par la suite d'interdire aux gens du livre qui vivent dans les pays musulmans d'exposer dans les pays musulmans ce qui fait partie de leur particularité. Hein? Et ils ont exigé ça encore plus dans ce qui concerne le fait de ne pas exposer dans les pays musulmans les particularités de la religion des mouchriquines. Et qu'est-ce qui fait partie des particularités des mouchriquines? Alors que dire du fait que ce soit parfois les musulmans qui eux-mêmes font ces choses-là? Si Allah il a interdit aussi... Les musulmans ont, à l'époque des Sahaba et après eux, ont interdit aux kuffars de faire ces choses-là dans les pays musulmans. Alors que dire du cas où des musulmans font ces choses-là, hein, qui sont des choses interdites, comme de faire des célébrer des fêtes de bid'a, de pratiquer des formes de shirk, ou de pratiquer des formes d'innovation ou de péché publiquement. Si on l'interdit aux kuffars, encore plus qu'on va l'interdire aux musulman de le faire. Le cheikh il commente là-dessus, Cheikh Al-Fawzan, et il dit نتيجه كل ما سبق ذكره هو التشبه بالكفار. Hein, tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant, le résultat de tout ça, c'est de mentionner la ressemblance avec les kuffars. Il dit وقوله فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده على عدم إظهار أهل الكتاب في دار الإسلام شيئا من أمور دينهم وشعائرهم وهذا محل إجماع العلماء وولاة الأمور وليكون دين الإسلام متميزا عزيزا لا يشوبه شيء وهكذا يلزم ولاة الأمور ومن تحت أيديهم من الأمراء أن يسعوا في منع إظهار شعائر الكفر في بلاد الإسلام، وهذا أمر يلزم عموم المسلمين العمل به حتى لا يختلط الحق بالباطل، وحتى لا يندمج الكفر مع الإيمان والسنة مع البدعة، فلا بد أن يحافظ المسلمون على دينهم سواء كانوا من الولاة أو من الأمراء الذين تحت الولاة أو من عامة المسلمين. فالمسلمون كلهم يتظافرون على حماية دينهم وتميزه عن غيره من الأديان، لأن الدين الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، والغرض من ذلك مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين. Donc le Cheikh il dit que Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, de même que les musulmans qui étaient avec lui et ainsi que tous les ulama qui sont venus après, ils ont tous été d'accord sur le fait que les gens du livre qui vivent dans les pays de l'islam ne doivent pas exposer quoi que ce soit de leur religion ou de leur symbole ou de leur signe religieux. Et ça, c'est une chose sur laquelle il y a un accord entre tous les ulama et tous les dirigeants. Pour que la religion de l'islam soit distinguée, et pour qu'elle soit puissante et qu'elle soit distinguée et qu'elle ne soit pas corrompue par autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les dirigeants et tous ceux qui sont en dessous d'eux, parmi les gouverneurs qui sont sous l'autorité du dirigeant. Ils doivent faire leur effort pour interdire que soient exposés les symboles de la mécréance dans les pays musulmans. Et ça, c'est une chose qui est obligatoire à tous les musulmans. C'est-à-dire que tous les musulmans doivent faire leur effort pour ça, pour que la vérité et le faux ne soient pas mélangés dans les pays musulmans. Et pour que la mécréance et la foi ne soient pas intégrées ou mélangées ensemble. Et également la sunna, pour qu'elle ne soit pas mélangée avec la bid'a. Et donc, il faut que les musulmans gardent et préservent leur religion. Peu importe qu'ils soient parmi les dirigeants ou les gouverneurs qui sont sous l'autorité de ces dirigeants-là, ou les musulmans en général. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ou les dirigeants, ou les musulmans en général. Donc, les musulmans, tous ensemble, doivent s'entraider pour protéger leur religion et défendre leur religion et pour la distinguer des autres religions, parce que la religion de vérité, elle doit être au-dessus et il n'y a rien qui doit être au-dessus de celle-ci. Et le but de tout ça, c'est de faire en sorte que les signes de la mécréance ou des mouchriquines, les particularités de la religion des mouchriquines, ne soient pas exposé ouvertement dans les pays de l'islam. Donc dans les pays de l'islam, quand quelqu'un vient dans les pays musulmans, il doit voir l'islam apparent. Et on ne doit pas voir des signes de shirk ou de kufr ou de la religion des kuffars qui sont exposés ouvertement. Il dit le cheikh « In'ikas al-amr al-an »« Fa kayfa idha kan al-aks »« Wa huwa al-waqi' al-an »« Anna al-muslimin » هم أنفسهم الذين يعملون أعمال الكفار ويظهرون شعارات الكفار، فإن هذا من الانتكاس. لما أصبح المسلمون هم الذين يظهرون شعار الكفر ويشاركون في أعياد أهل الكتاب ويظهرون عاداتهم وتقاليدهم ويظهرون عاداتهم وتقاليدهم وللأسف صار الذكي والمثقف والمفكر هو الذي يقلد الكفار ويسابق إلى التخلق بأخلاقهم وقراءة ثقافاتهم، وبقدر تأثره بهم يكون أكثر ثقافة وقبولا في المجتمعات، وهذا من الانتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو إهمال لدين الله عز وجل بل فيه إذلال لدين الله وإعزاز لدين الكفر. فالواجب أن يتنبه المسلمون لذلك وعلى رأسهم ولاة أمورهم، وأن لا يتساهلوا في شيء منه، وأن لا يطيعوا من ينادي بذلك من دعاة الحضارة بزعمهم، لأن الحضارة والرقي والتقدم إنما يكون باتباع الدين وتعاليمه. Donc le cheikh il dit que aujourd'hui les choses sont devenues inversées. Hein, Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit comment si les choses sont inversées. Et ça c'est la réalité actuelle, c'est ça qu'on voit maintenant, que les musulmans eux-mêmes sont parfois ceux qui pratiquent les choses que font les kuffars, et ils exposent eux-mêmes les signes des kuffars dans les pays musulmans ou même dans les pays non musulmans, et qui les imitent, hein, malheureusement. Et donc il dit ça, ça fait partie des choses qui font partie de qu'est-ce qui contredit l'islam. C'est le contraire de ce que l'islam enseigne. Et donc tu vois que beaucoup de musulmans montrent des signes de mécréance et ils participent avec les koufars dans leurs célébrations et dans leurs fêtes. Tu vois des musulmans qui fêtent Noël, des musulmans qui fêtent le jour de l'an, des musulmans qui fêtent l'Halloween, des musulmans qui fêtent, il y en a toutes sortes de célébrations, Allah al-Musta'an. Et ils laissent montrer, ils laissent paraître le suivi de leurs pratiques, de leurs traditions, de leurs coutumes. Hein, ils suivent les modes de vie des non-musulmans, des juifs et des chrétiens. Ils s'habillent comme eux, ils vivent comme eux, ils pensent comme eux parfois. Il dit que tu trouves même malheureusement que celui qui est considéré parmi les musulmans comme étant intelligent, cultivé, penseur, c'est celui qui imite les koufars et qui va même yani, se précipiter à essayer d'adopter leur comportement et leur façon d'être, leur tempérament, et qui va être le plus influencé par leur culture, par leur tradition, essayer de lire leurs livres et d'apprendre leur façon de penser, leur mentalité, et d'imiter ça. Et donc c'est eux qui vont être dans les pays musulmans les plus respectés, ceux qui ont adopté ça. C'est comme si pour dire que tu veux savoir, par exemple, si tu veux te faire respecter, tu veux te faire considérer comme quelqu'un d'important dans les pays musulmans, il faut que tu aies adopté la culture occidentale et que tu penses comme pensent les occidentaux, et que tu vives comme vivent les occidentaux, et que tu t'habilles comme s'habillent les occidentaux. Plus tu vas être proche de ta façon d'être des occidentaux, plus tu vas être élevé, plus tu vas être respecté. Mais plus tu vas te détacher de la culture occidentale, et que tu vas t'éloigner de ça, et que tu vas te distinguer par rapport à leur culture en adoptant le mode de vie islamique et la façon de penser des musulmans, là ils te considèrent comme quelqu'un qui est retardé, qui est rétrograde, qui n'est pas civilisé, qui n'est pas moderne, qui n'est pas évolué, et ainsi de suite. Donc le cheikh il explique, il dit que ça fait partie du fait que maintenant on a reculé dans la réalité de comprendre la religion et de comprendre l'islam. Et tout ça vient du fait qu'on a négligé la religion d'Allah. Et en réalité d'agir de cette manière-là, ça signifie en fait qu'on a rabaissé la religion d'Allah et qu'on a élevé la religion de la mécréance. Et donc il est obligatoire pour les musulmans de faire attention à ça, et en particulier les responsables et les dirigeants de ne pas prendre cela à la légère, hein, et de ne pas écouter ou de ne pas obéir à ceux qui appellent, hein, les musulmans à adopter la culture occidentale, parce que pour eux la civilisation c'est la civilisation occidentale. Il n'y a pas d'autre civilisation pour eux que celle-là. Donc ils ne réalisent pas que en fait il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de modernité excepté qu'en suivant l'islam et en suivant les enseignements de l'islam. Ça c'est la vraie civilisation, c'est la vraie évolution. Mais si tu veux l'évolution occidentale qui est basée sur l'athéisme, qui est basée sur le matérialisme, qui est basée sur la superficialité, le matérialisme, qui est basée sur l'individualisme et toutes ces choses-là, et tu rejettes et tu laisses de côté les principes de ta religion et de l'islam, et le tawhid, et la aqida, et la voie de nos pieux prédécesseurs, alors dans ce cas-là, ça veut dire que yani, tu t'es éloigné, tu t'es égaré. Hein? Allah musta'an. Donc le cheikh il dit, « Wa khulasatu al-amr anna dinana wa lillahi alhamd aghnana bi tashri'atihi wa ahkamihi wa insijamihi ma'al fitrati an ghayrihi min al-adyan. » وديننا هو مصدر عزتنا فماذا كان العرب قبل الإسلام عبارة عن قبائل متناحرة متصارعة يغزو بعضهم بعضا وولاؤهم لفارس والروم فلما أسلموا صاروا سادة العالم وفتحوا البلاد وأخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أفنترك الدين الذي هو مصدر عزتنا ونتبع شعارات وعادات الكفر واليوم وللأسف صرنا نستبدل ثقافاتنا وحضاراتنا بثقافة وحضارة غيرنا انظر الأسماء الشواعر والمحلات تجدها كتبت بأسماء أعجمية أو كتبت بحروف اللغة الأجنبية حتى الحروف العربية يكتبونها بصفة تشابه الحروف الأجنبية كل هذا محبة للتشبه بهم وعشقا لعادات الكفار وحتى التخاطب الآن يكون باللغة الأجنبية سواء في المستشفيات أو المطارات أو الشركات أو الفنادق فالواجب علينا أن نشيع لغة القرآن في حياتنا سواء في تخاطبنا أو تسمية الأشياء أو نشر الثقافة وأن تكون هذه اللغة العربية هي المسيطرة. Donc le cheikh il dit en résumé, notre religion, alhamdulillah, elle nous a enrichi par ses législations et par ses règles qui sont en accord et en harmonie parfaite avec la fitra, la nature saine et propre. Hein? Et donc, on n'a pas besoin d'aucune autre religion que l'islam, puisque c'est la religion d'Allah, la religion de la fitra. Et le cheikh, il dit que notre religion, c'est la source de notre fierté, de notre force. Et il dit que les Arabes, avant l'islam, qu'est-ce qu'ils étaient? Hein? C'était des tribus qui s'entretuaient les unes les autres, qui se combattaient les unes les autres. Et elles étaient soit affiliées à la Perse ou aux Romains. Et lorsqu'ils sont, qu'ils ont connu l'islam et qu'ils se sont convertis à l'islam, sont devenus les maîtres du monde. Et ils ont ouvert tous les pays sur terre, les ont conquéris. Et ils ont fait sortir les hommes de l'adoration de l'homme, pour l'homme, vers l'adoration du Seigneur des hommes. Hein, ils ont été libérés de l'esclavage de l'homme par l'homme et ils ont amené les hommes vers l'adoration du Créateur des hommes et du Maître des hommes. Donc, est-ce qu'on va abandonner la religion qui est la source de notre fierté et de notre force pour suivre les symboles et les signes et les traditions et les coutumes de la mécréance? Il dit, aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé malheureusement, on a échangé notre culture, notre civilisation pour la civilisation et la culture d'autres. D'autres que nous. Et même que les noms des rues et des magasins, on les voit écrits avec des noms étrangers et des langues étrangères. Même les lettres arabes, on les écrit d'une manière pour qu'elles ressemblent aux lettres de langue étrangère. Et ça, c'est parce qu'on aime imiter les autres. Et on a un amour pour les traditions des koufars. Il dit même que tu vois les gens, ils essaient de se parler les uns avec les autres en langue étrangère. Dans certains pays musulmans, arabes ou non arabes, tu vois que si quelqu'un il s'adresse à l'autre en français ou en anglais ou des langues européennes, il est respecté, il est bien vu. Hein? Lui c'est la personne civilisée, éduquée. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais si c'est quelqu'un qui s'adresse en langue arabe, il n'est pas respecté. Et on écrit maintenant, dans la langue, ces langues-là, parfois dans les hôpitaux, dans les aéroports, dans les compagnies, dans les hôtels. Et donc, le cheikh dit qu'il faut donner à la langue arabe son importance et il faut l'utiliser dans notre discours quand on se parle entre nous et qu'on l'utilise également dans la propagation de la culture et dans toutes les autres choses parce que c'est la langue du Coran et elle doit avoir la priorité et le dessus sur tout autre. Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui ici. On continuera ça, inshallah, au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.